Est-ce que l'origine du monde est comme celui de l'informatique?
Je ne ferai pas de commentaires.
Ah, tu ne veux pas faire de commentaires?
Je ne sais pas.
On dit que l'informatique, une machine, c'est féminin.
Ah, tu vois,
Oui.
comme quoi? Eh bien, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Bonjour Emmyman, bonjour Matt Bell, bonjour Doudou.
Bonjour Cécile.
Hello. Bonjour les auditeurs.
Bienvenue sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur les cultures numériques. Et aujourd'hui, en l'honneur de la semaine spéciale dédiée au 8 mars, nous avons décidé de faire un sujet en rapport avec les femmes.
Dans le numérique, bien sûr.
Et forcément,
Ah
on traité à notre sauce, bien sûr. Mais avant, un peu d'actu. Ouh, je crois que cette
oui.
semaine,
Beaucoup d'actu.
c'est des fails. Attention, c'est parti!
Et du coup, ah ben voilà, ben du coup, j'ai pas rechargé, donc moi je sais pas qui c'est qui dit.
Ah, mais en
Et
fait,
du coup, voilà.
mais c'est toi avec
Ah ben c'est moi. Ah
Redoudou!
ben voilà, non mais faut le
Allez,
dire,
vas-y!
hein, faut dire les choses, voilà.
Allez!
Bon ben on a de la fuite, hein, voilà, donc le site Nord Emploi a fuité, tout. Ah non, pas les données bancaires, ouf.
Orange confirme une fuite d'informations sur les clients et les employés.
Une fuite chez Chronopost, y compris les signatures, bah tiens.
Des petits trous et des grands trous? Une porte dérobée dans des moniteurs patients médicaux Contex CMS8000 et Epsimed MN120. L'identifiant du patient et ses données sont automatiquement exfiltrés par Internet. Et ces données sont modifiables à distance.
Oh, ah, une vulnérabilité dans la vérification de signature des microcodes AMD pour changer.
De la censure et de la surveillance aussi, avec la Grande-Bretagne qui oblige Apple à casser le chiffrement des comptes utilisateurs.
La loi de finances 2025 impose la certification des logiciels de caisse avec la suppression de l'attestation individuelle. L'April va rester mobilisée avec les acteurs de l'écosystème pour agir auprès des pouvoirs publics dans un cadre réglementaire aussi favorable que possible aux logiciels libres, comme on a déjà pu le faire en 2016. C'est fatigant, hein, on empêche des trucs et puis il faut y revenir 10 ans après.
Les petites entreprises vont devoir passer à la facturation électronique et payer, et très certainement pas pouvoir utiliser des logiciels libres.
Ah, marre! Si vous pensiez que Blue Sky était le nouvel Eldorado de la liberté d'expression, ils ont censuré cette vidéo fake de Trump suçant un doigt de pied de Musk. Voilà, donc il y a déjà de la censure sur Blue Sky.
Compteur Linky, bientôt une hausse d'une quarantaine d'euros par an pour les foyers récalcitrants. Et à partir du 1er août 2025, les citoyens qui refusent d'installer ce compteur d'électricité chez eux subiront une sanction financière. Ne pas installer Linky causerait des coûts supplémentaires à Enedis, justifie la commission de régulation de
C'est
l'énergie.
n'importe
Ah,
quoi.
bon. L'Assemblée nationale a adopté en quelques minutes un amendement en reportant la fin de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, la fameuse VSA, prévue le 31 mars prochain au 31 décembre 2027. Aucun débat sur le fond, aucune justification, rien, juste un coup de force permis par une idéologie autoritaire majoritaire et le mépris grandissant de ceux qui nous gouvernent pour le respect des règles de droit. Parce que c'est censé être une expérimentation.
Oui, adhérer à la
Voilà,
couverture.
oui, enfin, donner des sous, oui.
En Suisse aussi, ça fait de la VSA dans les supermarchés pour traquer les clients, mais moi je croyais qu'ils étaient plus civilisés que nous.
Ah, faut croire que non. Après les fournisseurs de DNS, les VPS aussi s'insurgent contre les demandes de blocage de Canal+ à cause des retransmissions de streaming sportif. Mince alors.
Surveiller en permanence ses travailleurs via des captures d'écran auto, comme un certain outil d'un certain système d'exploitation, et en se disant que ça ne tape pas sur le clavier toutes les X minutes, c'est que probablement ça bosse pas des masses. C'est pas terrible niveau humain et c'est très discutable en matière de protection des données. Résultat, amende de 40 000 euros.
Ah, la clean arrive à bosser, c'est bien. Et bien, il y a beaucoup d'IA aussi. Oh là là, la Commission européenne veut investir, donner quoi, 200 milliards d'euros dans l'IA. Mais sinon, on va couper les fonds au logiciel libre parce que bon.
Le Guardian et le New York Times vont utiliser l'IA pour pondre des articles. Au secours!
Next a identifié plus de 1000 sites web d'information francophone, faisant croire que les articles sont écrits par des journalistes ou des experts en la matière, alors qu'ils sont en fait générés et ou traduits par des IA sans même le mentionner. Et par exemple, de nombreux médias ont relayé une rumeur avançant que les voitures de plus de 10 ans devraient faire l'objet d'un contrôle technique tous les ans, information hallucinée par l'IA, donc c'est pas une vraie information.
Le Doge d'Elon Musk va se servir de l'IA pour évaluer le rapport d'activité des fonctionnaires américains envoyés par courriel. Et l'adresse est publique, donc on peut aussi lui écrire. Et au passage, la base de données du Doge a été installée par des bleus et n'est pas sécurisée.
Oh. Nombreux sont ceux qui se posent des questions autour de DeepSeek, entre l'aspect légal, bon, pas plus que les autres IA, on va dire, hein, et des fuites de données massives.
D'après une étude, ChatGPT se droitise. Pourtant, il est supposé être neutre. On va dire qu'il suit la tendance.
Wikipédia fait le ménage dans ses sources pour écarter les faux sites créés par l'intelligence artificielle. Ah oui, ça va être gênant ça, les sources.
Thomson Reuters remporte une victoire face à une entreprise de l'IA sur la protection du droit d'auteur. Le juge a rejeté l'argument d'usage loyal ou fair use des contenus protégés par le droit d'auteur invoqué par la start-up. Cette doctrine établit qu'il est parfois légal d'utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation, par exemple pour créer des parodies ou dans le cadre des recherches non commerciales.
Le président Macron annonce 109 milliards d'investissements dans les prochaines années en France pour l'IA. Ah, donc il y en a de l'argent magique en fait.
Une étude de Microsoft qui montre que l'IA est néfaste pour la cognition humaine, enfin l'usage de l'IA, l'usage systématique de l'IA.
Oui, c'est ça.
Est néfaste pour la cognition humaine. Ah bon ?
Ouais. Ah ben en parlant de Microsoft, les GAFAM sont là, rassurez-vous, et il y a encore de l'IA, hein, parce que ça va bien avec. Donc voilà, une nouvelle IA de Microsoft qui peut contrôler d'autres logiciels et des robots. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Aïe ! Aïe ! Vilain robot, vilain !
Skype, c'est fini. Microsoft fermera le service en mai, puisqu'il paraît que Teams l'a remplacé. Mouin.
La Cour pénale internationale, menacée de sanctions par les États-Unis de Trump, s'inquiète pour son avenir numérique aussi. En effet, c'est Microsoft qui gère leur dépôt numérique.
Microsoft rend payant des fonctions dans Notepad et Paint.
Ouais.
Bon, des machins avec de l'IA, donc, mais quand même. Ah, et Office sera bientôt disponible en version gratuite. Enfin, à condition de tout stocker sur OneDrive, histoire d'entraîner les modèles IA pour Notepad, probablement, et puis avec des barres de pub.
Bah ouais. Et Microsoft fait semblant que la bulle d'IA n'a pas encore éclaté, mais annule des locations de son data center. Tiens donc.
Microsoft propose Muse, une IA supposée assister les développeurs lors de la création de jeux vidéo, et personne n'en veut.
Je crois qu'on a un pattern, hein. Un avocat parisien utilisait Google Drive comme service cloud pour son activité professionnelle. Il intervenait dans un dossier de pédopornographie, avec des pièces à conviction en conséquence. Comme on pourrait l'imaginer, Google, scannant les fichiers du drive de l'avocat, censément couvert par un socle professionnel très strict, a détecté les images et désactivé le drive et l'adresse email de l'avocat, lui faisant ainsi perdre toutes ses données professionnelles. Oups.
Bien joué. Google accepte de payer 326 millions d'euros dans le cadre d'une enquête italienne sur l'évasion fiscale. L'Italie a réclamé plus d'1 milliard de dollars d'impôts impayés et de pénalités en 2024.
CoScientist, une IA de Google, passe 2 jours à résoudre un bug car elle avait lu un papier qui contenait la solution. Quelle efficacité !
Google installe discrètement l'appli SafetyCore dans tous les Android 9 et plus récents qui scannent vos photos sans vous demander votre avis, mais c'est pour vous protéger des photos nues, pour éviter d'en envoyer par erreur. Bon, après, c'est vous qui voyez si c'est vos photos ou aussi celles de Google. Hein.
Les CAPTCHA ne servent plus à rien, sauf à faire gagner des sous à Google et à nous faire perdre du temps. 819, j'ai du mal à le lire tellement c'est énorme, 819 millions d'heures humaines perdues et des milliards de dollars de profit pour Google. Voilà, donc dans les articles, certaines citations comme « On peut conclure que le véritable objectif de ReCAPTCHA V2 est d'être une ferme de cookies à traçage à but lucratif se faisant passer pour un service de sécurité. » Voilà, Google a réussi un tour de force, faire passer une extraction massive de travail humain pour une mesure de sécurité. C'est bien. Ou pas.
Amazon Twitch supprime des tonnes de vidéos, le stockage est désormais limité à 100 heures. Les streamers de jeux vidéo se plaignent de la suppression de l'histoire. Ouais bon, c'était à prévoir.
Apple et son assistant vocal Siri ciblent d'une plainte pour collecte massive d'enregistrements. La Ligue des droits de l'homme attaque le géant informatique en raison d'enregistrements de conversations à caractère privé par son assistant vocal.
Bah, il en reste un peu, je vous laisse.
Ah oui.
Le raccourcisseur de lien bit.ly va insérer de la publicité avant de faire suivre la cible.
C'est abusé.
On vous l'avait dit que c'était pas une bonne idée d'utiliser ces trucs.
Le CGNAT arrive chez Orange. Eux aussi vont couper les IP en 4. Donc si vous vous auto-hébergez, pensez à demander une adresse complète. En effet, le CGNAT, c'est CarGradNAT. En fait, c'est on a une adresse IP publique, mais pour 4, voire 15, voire 1000 personnes. Et ça peut générer des problèmes aussi en cas de...
d'hébergement.
Ouais, ou aussi en cas de réquisition de la police, par exemple, parce qu'il y en a qui se font accuser alors qu'en fait, c'est le voisin. Enfin, voilà.
Le logiciel de rédaction de procédures pénales à plusieurs millions d'euros de la police, toujours pas fonctionnel et sur le point d'être abandonné.
Wow. Une étude scientifique sur 100 000 lancés de dés manuellement montre que les dés du commerce ne sont pas parfaitement équiprobables. Les dés avec des angles arrondis ne sont pas polis de façon homogène et certains dés moulés ont un défaut sur la face au point d'extrusion, c'est-à-dire là où on injecte le plastique. Donc en fait, les dés, c'est pas tout à fait random.
Ils sont pipés, quoi.
Voilà.
Revente de jeux vidéo dématérialisés. L'UFC Que Choisir saisit la Commission européenne pour le permettre.
On croise les doigts. Un data center devrait s'implémenter à Alixan, à côté de la gare TGV, dans le parc d'activités de Rovaltin, donc c'est pas loin de Valence, avec un investissement de 450 millions d'euros. Et on, il parle pas de la consommation d'électricité.
Mais oui, mais attends, ils vont se relier directement à la centrale.
Ouais, ou alors sur les caténaires de la SNCF.
Attention à la gestion des nuls dans votre code, car il existe vraiment des gens qui s'appellent nuls, N-U-2-L, ouais. Et ils ont beaucoup de problèmes avec ce patronyme.
C'est halluciné quand j'ai vu ça. Voilà, mais c'est tout pour les fails du mois. Oula, c'était...
Eh bien, ça en fait une bonne plâtrée.
Hein, voilà.
Eh bien, on écoute une petite chiptune et on se retrouve après pour notre sujet sur les femmes dans l'informatique.
Ah bah oui.
À tout de suite. Il s'agissait de Storm Runner de Mav. Et la musique a été classée deuxième à la compétition musique de la Mountain Bite, une démo partie suisse.
Mmh, c'est cool ça.
Et oui, j'espère que vous êtes bien réveillés parce que Là, ça va être un peu plus sérieux. Là, on parle de sujets d'actualité.
Oui.
Mais oui, mais avant de parler d'actualité, effectivement, on va parler surtout d'informatique et d'héritage féminin.
Putain. Ah. Ouais. Voilà.
Qu'est-ce qu'il dit, Maître Bell ?
Alors, non, c'était un artefact belge qui était passé dans notre oreille, mais qui est déjà reparti. Alors, nous ne pouvions pas passer à côté de la semaine à la radio liée au 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Oui, on a dû encore le répéter, hein. J'ai assisté à l'apéro des bénévoles la semaine dernière, et effectivement, certains nous ont demandé innocemment, mais c'est quoi déjà le 8 mars ? Ah bah oui, c'est la journée internationale des droits des femmes ? Ah bon, ça existe ? Eh oui, mais c'est une date essentielle pour vous rappeler les inégalités persistantes entre les sexes. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière celles dont l'histoire a été parfois oubliée, alors qu'elles ont fait un apport fondamental dans l'histoire de l'informatique. Et nous allons prendre donc ce domaine où certaines femmes, parce qu'il y en a pléthore finalement, qui ont joué un rôle clé dans l'informatique. Aujourd'hui, les femmes dans l'informatique, justement, représentent que seulement 12% des effectifs dans les écoles d'ingénierie informatique et 15% des emplois dans la tech en Europe. Et pourtant, l'informatique, telle qu'on la connaît, elle n'aurait pas pu exister sans elle. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi sont-elles devenues si rares dans un secteur où elles ont pourtant vraiment beaucoup contribué ? Je vais vous parler forcément des pionnières qui ont été peut-être oubliées. Si Ada Lovelace vous dit quelque chose, eh bien c'est la toute première programmeuse. L'histoire de l'informatique commence bien avant les ordinateurs modernes. Au 19e siècle, Ada Lovelace, mathématicienne britannique, a écrit en 1843 le tout premier programme informatique pour la machine analytique de Charles Babbage.
Babbage, ouais.
Babbage, pardon. Elle est aussi la première à imaginer qu'un ordinateur pourrait aller au-delà du simple calcul. Vous avez également Hedy Lamarr, qui n'a pas que été actrice. Elle a été aussi à l'origine du Wi-Fi, la star hollywoodienne. Mais aussi l'inventrice de génie Hedy Lamarr a développé en 1941 une technologie de transmission secrète avec Georges Anteil. Son système de sauve de fréquence servira de base aux technologies Wi-Fi, Bluetooth et GPS. Vous avez également Grace Hopper, la femme qui a rendu la programmation accessible. En 1952, Grace Hopper a créé le premier compilateur, un outil révolutionnaire permettant d'écrire le code plus facilement. En 1959, elle développe COBOL, un des langages les plus utilisés dans le monde jusqu'à présent. Mais depuis, ça a vraiment évolué, je crois. Ceci dit, dans le domaine bancaire. Le COBOL a été vraiment le langage le plus privilégié, d'ailleurs. Vous avez également des personnes comme Katherine Johnson, une mathématicienne de la NASA qui a envoyé un homme sur la Lune. Hein. Dans les années 60, Katherine Johnson, mathématicienne afro-américaine, calcule les trajectoires des missions spatiales américaines. Elle joue un rôle clé dans l'alunissage de l'Apollo 11. En 1962, John Glenn refuse de faire confiance aux ordinateurs de la NASA et demande à Katherine de vérifier elle-même les calculs. Comme quoi, hein, elle était vraiment quelqu'un sur lequel on pouvait compter. Et d'ailleurs, il y a même eu un film qui a été fait sur elle et d'autres femmes qui ont joué un rôle dans ce secteur. Vous avez également Clara von Neumann, qui a créé un programme Le Maniac, un ordinateur qui révolutionnera la météorologie. Également dans le secteur de la NASA, il y a aussi Margaret Hamilton qui développe les logiciels de bord des missions Apollo. Sans son travail, Neil Armstrong n'aurait peut-être pas foulé la Terre lunaire en 1969. Ensuite, vous avez Elisabeth Jeckfeller et son équipe qui crée dans les années 70 ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce qui était l'ancêtre de Internet, hein, ARPANET. Et qui a développé également le WHOIS. Par ailleurs, en juillet 2013, elle reçoit le prix de Jonathan B. Postel Service Award pour ses contributions au développement précoce et à l'administration de l'Internet à travers sa direction du Network Information Center, le NIC, pour ARPANET. En 1970, après l'absorption de SEA et de la Compagnie internationale pour l'informatique, Alice Recoq, oui, une Française, hein, devient chef de projet du micro-ordinateur de gestion industrielle, le Mitral 15, une mini-machine informatique temps réel et automatique. En janvier 1985, le groupe Bull la nomme directrice de la mission Intelligence artificielle. Ah bah oui, tiens, déjà. Et oui, l'IA qu'elle avait découverte lors d'un voyage au Japon. Vous avez également l'emblématique Suzanne Kerr, qui a été la femme qui a donné du sens graphique à l'informatique avec les icônes qu'elle a développées sur Apple. Dans les années 80, Apple lance le Macintosh avec une interface graphique inédite. Eh bien, c'est Suzanne Kerr qui a créé les premières icônes d'ordinateur comme la corbeille ou la disquette qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et son travail influence toute l'ergonomie moderne, sa source d'inspiration. Eh bien, sa passion, le point de croix. On la retrouve même dans les icônes qui ont été faites beaucoup plus tard sur Facebook. Alors, pourquoi les femmes ont-elles disparu de l'informatique ? Jusqu'aux années 1970-80, les femmes représentaient environ 30 à 40% des effectifs dans l'informatique. Et puis, tout s'est effondré. Les ordinateurs sont devenus des trucs de garçons. D'ailleurs, on va vous faire écouter un petit peu des extraits de publicité qu'on pouvait écouter à l'époque.
Pardon, messieurs, mais une chose que vous ne savez pas, moi, mon fils, il a un scotter, comme ça.
Ouais, et ben moi, mon fils, il a une gonzesse, comme ça.
Oui, mais moi, mon fils, il a une shiny fille,
Moi, mon fils, il a un Amiga. Micro Amiga, un ami dans l'informatique.
Et puis, vous aviez aussi d'autres pubs qui s'adressaient aussi aux garçons.
Regarde ça, le nouvel Amstrad, je te dis pas. 61-28+, c'est un vrai micro. T'es pour tes maths, ton traitement texte. Tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Rigole à max sur des tas de jeux. Super graphisme, 4000 couleurs.
Son stéréo dans le moniteur.
Pour un prix hyper sympa.
Nouveau 61-28+ Amstrad sur cartouche et disquette.
Ouais, donc si vous avez bien écouté, en fait, les publicités vraiment ciblées garçons. Avec l'arrivée de l'ordinateur personnel dans les foyers dans les années 80, le marketing joue un rôle déterminant. Les fabricants d'ordinateurs comme Amstrad ou Commodore ou IBM cherchent une cible privilégiée et choisissent forcément les garçons. Donc les publicités qui ont été développées dans ces années-là en sont la preuve. Elles mettent exclusivement des garçons en scène. Elles insistent aussi sur la performance, la compétition, le dépassement de soi, des valeurs masculines typiques. Hein. Et les filles sont généralement absentes ou cantonnées à un rôle passif. Hein. Elles regardent les garçons jouer, elles sont même impressionnées des fois. Et le résultat ? Eh bien, les garçons reçoivent des ordinateurs à Noël. Ils apprennent à coder en autodidacte et les filles, elles ne sont pas encouragées à s'y intéresser. Et en quelques années, cette fracture a complètement modifié l'image de l'informatique. Ce qui était un métier ouvert aux femmes est devenu un univers très masculin. D'ailleurs, c'est ce que parle Marie X dans son livre « Programming Inequality ». Eh bien, aujourd'hui, est-ce qu'on a un retour des femmes dans la tech ? Eh bien, aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives qui tentent d'équilibrer un petit peu la place des femmes dans l'informatique, comme Girls Who Code ou Ada Tech School, qui encourage les filles à apprendre à programmer. De grandes entreprises comme Microsoft, Google mettent en place des programmes pour réduire l'écart entre les hommes et les femmes.
C'est pas sûr que ça continue, mais...
Ouais, on sait pas. De plus, des modèles féminins émergent dans la tech, mais la route est vraiment encore longue. À noter quand même que vous avez Sophie Vigée, qui est aussi développeuse, et qui est également directrice de l'école 42. Et aussi, plus proche de nous, on a reçu aussi des gens du CEFSI, le Cercle des Femmes de la Cybersécurité, qui développe beaucoup d'initiatives en faveur des femmes. Hein. On n'en parle pas assez. Mmh. Et nous avons également, de manière locale, on a le Moulin Digital ou bien la French Tech in the Alps, qui aussi œuvre avec beaucoup d'énergie pour inciter les femmes à venir dans ce secteur. Parce qu'en fait, l'informatique aujourd'hui s'ouvre d'une image comme quoi la technicité est interdite aux femmes, alors que voilà, on est tous humains et on a tous les mêmes capacités ou presque. Hein, il suffit de dépasser ses peurs, parfois. Le 8 mars, donc, est une journée pour rappeler que l'égalité n'est pas acquise, hein, elle ne se limite pas à un simple symbole. C'est donc la journée pour rappeler qu'il existe des inégalités qui persistent, et nous, en informatique, on le voit. Et même si ça n'a pas été toujours le monde des hommes, pendant des décennies, effectivement, les femmes ont été des figures essentielles dans ce secteur. Aujourd'hui, il ne faut pas considérer que voilà, les femmes ont eu aussi leur rôle dans l'histoire et ignorer leur existence, c'est quand même ignorer les fondamentaux quelque part. Alors aussi, hein, un petit message pour nos amies auditrices, hein, si vous êtes des femmes, que vous aimez la technicité, il ne faut pas vous sentir obligées de fermer cette porte. Hein. L'histoire nous prouve hein, que l'informatique, sans les femmes, elle ne serait pas celle que nous avons aujourd'hui. Donc allez-y, lancez-vous.
Merci Cécile.
Et bien voilà pour le sujet.
Et bien c'est super.
Marquis ?
Ouais.
Allez, on écoute.
On sait plus quoi dire en fait.
On sait plus quoi dire. Et bien on écoute une musique.
Ah bah oui, bonne idée. La fin est un peu abrupte.
C'est vrai.
Vous avez besoin.
Alors, vous êtes W, un W, ou I-A, ou I-A.
Oui, mais où ?
Ou I-A.
Ah, où il y a ?
C'est
ça. Non, c'est pas ça ?
Non, c'était Spiny Cat, entre parenthèses. En fait, la vidéo de cette musique est assez psychédélique avec un chat qui tourne sur lui-même pendant des heures et des heures.
D'accord.
Voilà, ça fait le buzz sur Internet.
Ouais. Okay.
Allez, passons à l'agenda.
Oui. Ah bah oui.
Eh bien, Medbel et Rodoudou, on vous écoute.
Soirée libre bidouille avec Linux 07. Ding, ding, ding. Venez pour une réponse à vos questions, discuter des libertés, approfondir ou échanger nos connaissances, connaître des alternatives numériques, éthiques et respectueuses de vos données personnelles. Essayez un environnement GNU Linux, soit un ordinateur ou un Raspberry. Contribuer au commun, proposer un thème à travailler et si vous désirez maîtriser un thème en particulier, contribuer à la connaissance. C'est le mercredi 12 mars à 17h30 jusqu'à 23h30, place de la Chapelle, rue de la Chapelle, 07 270 Saint-Prix.
Permanence Résine. Résine est un fournisseur d'accès à Internet qui défend une vision politique des technologies et des réseaux. Venez nous rencontrer pour discuter, devenir membre, poser vos questions sur la fibre, sur Internet ou juste par curiosité. Ce sera le jeudi 13 mars de 19h à 20h au 8 Fab Lab rue Courcomer à Cray.
Soirée libre G3L, venez avec vos questions sur GNU Linux et les logiciels libres. C'est le vendredi 14 mars de 19h30 à 22h30 à la MJC Châteauvert, Valence.
Club informatique pour les 13-18 ans, tu as entre 13 et 18 ans, l'IA, le jeu, l'animation t'intéresse. Tu veux en savoir plus sur Java, PHP, Python et autres langages? Rejoins le groupe les samedis avec ton ordinateur, ou pas. Il y aura un goûter partagé en fin de séance, donc le 15 mars et tous les samedis hors vacances, de 13h à 16h, au Fabrico, cette rue Belle Image à Valence.
Le 8 Fab Lab fête ses 10 ans. Dès la fabrication numérique, de la réparation, du recyclage plastique, du coworking, de la formation professionnelle, des projets pour et avec les jeunes, de l'impression 3D, terre, disant que le 8 Fab Lab propose des services et des activités pour rendre accessible la fabrication numérique et transformer nos façons de consommer et de produire sur le territoire. C'est de 14h à 18h, porte ouverte au 8 Fab Lab, 8 Fab Lab, rue Courcomer, 26400 Cray. Exposition, rencontre avec des makers, c'est le radio témoignage surprise. À partir de 18h, soirée au Central Vapeur, 8 cours de Verdun, à Cray, Loto, Karaoke, tournoi de Street Fighter et plein de surprises. Mm-hmm. Gratuit, ouvert à toutes et à tous, samedi 15 mars 2025 à 14h.
Eh bien, c'est tout pour l'agenda. Nous avons des liens. Qu'est-ce que tu nous as trouvé, MMU, pour nous occuper?
Alors, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, a un service juridique que vous pouvez contacter en cas d'atteinte à vos libertés individuelles ou de mise en cause de libertés publiques sur le droit des étrangers, la violence policière ou les discriminations. Voilà, un vieux manuel de sabotage ordinaire destiné à déstabiliser les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ici en tête des textes les plus lus sur le web. On se demande bien pourquoi ce guide déclassifié par la CIA est redevenu d'actualité. Mais bon, pourquoi pas. Et en prime, un petit manuel de sabotage des ordinateurs de 1970. Bon, d'accord, on n'en est plus aux cartes perforées, mais pourquoi pas le mettre à jour.
Voilà. J'ai encore quelques cartes perforées.
Et ben voilà, hein, tu pourras lire le manuel. Voilà. Et si vous ne savez pas trop avec quel mot aborder ce sujet délicat, mais que vous ne voulez pas le laisser sous le tapis, un guide pour d'une vingtaine de pages pour parler de porno avec votre enfant de 8 à 11 ans, parce que bah, c'est pas forcément une solution de les laisser tout seuls avec ça. Et il existe aussi deux autres guides, donc pour les 12-15 ans et pour les 16 ans et plus.
Ouais, mais arrête maman, ça me gêne.
Ah oui, mais bon, il faut quand même en parler.
Oui, on essaie, on en sait. Astrologique, frottons cette boule. Alors, 6 admins. C'est chiffré, ben si, il y a un chiffre devant.
Old school. Quand il y a Mars, il y a Marchintosh. Marchintosh.
Ouais. Nerd, on l'a traité de goth. Ça l'a tant vexé qu'il est reste allongé et livide. Puis l'emoji.
Non, depuis l'emoji.
Depuis l'emoji.
Il gît.
Ah oui.
Il est allongé. Donc il gît et l'emoji.
Oui. Okay.
Électronicien. Quelle est la fréquence de résonance des 7 boules de cristal?
Ça, je ne sais pas. Activiste, soit vous appelez votre député, soit vous serez dépité quand le chiffrement sera brisé. Ah.
Géographe, si en fait on pourrait bien renommer le golfe du Mexique en golfe de la masculinité fragile. Qui c'est qui le fait dans OpenStreetMap?
Ça serait bien justifié, je crois.
Hein, voilà. Voilà, voilà.
Eh bien, on est bien heureux d'être en France encore. Hein.
Ouais, on est d'accord.
Et en Belgique.
Et en Belgique.
Ah oui.
Eh bien, amis auditeurs, je crois que nous atteignons la fin de l'émission.
Ah bon?
Eh oui. Eh bien, c'était Underscore que vous écoutez sur Radio Méga ou sur Radio Cactus, selon là où vous nous écoutez. L'émission est enregistrée dans les studios de Radio Méga. Le numéro était préparé par MMUman, moi-même, Maître Belle et Roudoudou. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mm-hmm. Cette fois, je crois qu'il y aura du rythme dans la boîte.
Voilà, ce serait très, très bien, TB.
Ça va être très bien. Très bien, la mention TB vous sera d'utilité à connaître pour la semaine prochaine.
Du coup, ce sera toi, sans toi, Medbel, c'est ça ou...
Ah.
Avec moi.
Mais oui,
avec
vous.
Toi, alors.
Non, logique.
J'ai cru voir un truc comme ça, mais j'ai dû me tromper.
Il n'y a pas de souci. Ok. Eh bien, la semaine prochaine. Bye bye.
Bye bye. Bye bye.
Bonjour, Yuan. Bonjour, Lulu. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Flo.